Ce soir donc, je présente Jean-François Fauvarc. Jean-François Fauvarc est né le 22 octobre 1938 dans le Pas-de-Calais. Il est ancien élève de l'École normale supérieure de Paris. Il est depuis 1987 professeur d'électrochimie industrielle au CNAM. Et je vous présente d'ailleurs la petite plaquette que vous pouvez retrouver, qui est distribuée en haut hors de l'amphi, qui présente la chaire d'électrochimie au CNAM et qui est très très utile. Pour ses spécialités, ses recherches portent sur les procédés électrochimiques et l'utilisation des polymères dans les générateurs électrochimiques, et notamment les batteries au lithium, les supercondensateurs, les piles à combustible. Il est à l'origine de plusieurs brevets. Il a été membre du conseil scientifique de Renault. Il est vice-président du réseau national technologique piles à combustible. Il est président du groupe électrochimie de la Société française de chimie. Il est expert auprès de l'ADEME et de l'ANVAR. Et il est enfin membre de la commission des titres d'ingénieur. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées internationales. Voilà, Jean-François Fauvarc, maintenant je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat d'une vingtaine de minutes pourra suivre avec le public. Je vous remercie.
Merci beaucoup, et d'abord merci à vous tous qui êtes venus pour cette université de tous les savoirs, et merci aussi à tous ceux qui, dans les centres associés du CNAM, vont suivre cette présentation. Donc cette présentation a pour objet de donner quelques aperçus sur les batteries et les piles dans un contexte d'environnement durable, et c'est pourquoi nous commencerons par présenter quelques mots sur l'énergie électrique, sur les générateurs, les piles et les accumulateurs, et puis nous terminerons sur les piles à combustible, qui sont un espoir maintenant pour tout ce qui est le contexte des énergies durables. L'énergie électrique a commencé à être utilisable à partir du moment où l'homme a su fabriquer des générateurs de courant, c'est-à-dire que l'énergie électrique est simultanément produite, transportée et utilisée où elle est perdue, mais elle ne se stocke pas. Et l'énergie électrique a cessé d'être quelque chose, une curiosité de salon, ou un problème pour les savants du XVIIIe siècle, à partir du moment où Volta, en 1800, a inventé le premier générateur électrique, la pile de Volta, dont d'ailleurs vous pouvez voir un exemple au musée du CNAM. La pile de Volta avait compris que si l'on associait deux métaux différents et si l'on superposait des rondelles de zinc, un séparateur en papier imbibé de solution saline, des rondelles d'argent, eh bien, on pouvait obtenir un courant électrique. Et nous savons maintenant, dans ce système, que les interfaces métal-solution sont portées à des potentiels différents. Le zinc, au contact d'une solution saline, présente un potentiel de l'ordre de moins 0,76 volts. L'argent, au contact d'une solution saline, un potentiel aux environs de 0,22 volts. Les électrons, qui sont à un potentiel négatif, voudraient rejoindre les sites à un potentiel plus positif. Ils ne peuvent pas le faire à travers le séparateur qui n'est pas conducteur électronique, mais ils peuvent le faire par l'extérieur si l'on ferme le circuit électrique par un conducteur électronique. Volta avait en outre, dans une intuition un peu géniale pour l'époque, compris qu'il pouvait augmenter la force de son générateur en empilant successivement des éléments et tous semblables. Il avait ainsi une conscience, disons un petit peu intuitive, de ce que pouvait être la grandeur intensive liée à l'énergie électrique, le potentiel, auquel on a fort justement donné le nom de volt. Mais Volta n'a jamais compris, jamais bien compris, qu'un générateur électrochimique fonctionne normalement en transformant de l'énergie chimique en énergie électrique. Un générateur électrochimique est constitué par conséquent de masses actives qui sont proches des électrodes, électrodes positives, électrodes négatives. Prenons l'exemple de l'accumulateur au plomb, qui est quelque chose que vous connaissez tous. À l'électrode positive, la masse active est constituée d'oxyde de plomb et d'acide sulfurique. Cette masse active peut être réduite et formant du sulfate de plomb. À l'électrode négative, une masse active qui est constituée de plomb et d'acide sulfurique peut être oxydée en sulfate de plomb en fournissant des électrons à l'extérieur. Ces électrons, qui sont à un potentiel négatif, ne peuvent pas traverser le séparateur qui est conducteur ionique mais qui n'est pas conducteur électronique et ne peuvent rejoindre l'électrode positive que s'il y a un conducteur électronique à l'extérieur. Bien entendu, les constructeurs des batteries au plomb font tout ce qu'ils peuvent pour que le volume du générateur soit occupé principalement par les masses actives, c'est-à-dire par ce qui permet de former de l'énergie, et le moins possible par ce qui est accessoire, donc le séparateur ou les collecteurs de courant. Dans cette opération, les électrons subissent une variation de potentiel et par conséquent, on obtient une énergie électrique qui est égale à la quantité de courant que multiplie la variation de potentiel. Dans le cas de l'accumulateur au plomb, pour 2 faradés, c'est-à-dire 2 fois 96 500 coulombs, on a une variation de potentiel de l'ordre de 2 volts et par conséquent, cela correspond à 386 000 joules, soit 107 watt-heures. Un joule, comme vous le savez, c'est un watt-seconde. Hein, et dans une heure, il y a 3600 secondes. Et par conséquent, en divisant 386 000 joules par 3600, on obtient les 107 watt-heures que permet en principe la conversion de PbO2 plus Pb plus 2HSO4 moins plus 2H plus en PbSO4. Peut-être si donc mon premier message était d'indiquer que l'énergie électrique ne se stocke pas mais se produit à la demande, que mon deuxième message était de faire bien remarquer que cela nécessite des masses actives et que c'est cela qui va permettre de fournir la transformation de l'énergie chimique en énergie électrique, ce qui suppose que ces masses actives soient à la fois conductrices ioniques et conductrices électroniques. Le troisième message que je voudrais faire passer est lié à des qualités d'usage, à des choses toutes simples de l'utilisation des générateurs électrochimiques. Ces choses simples, ou quelquefois on les a oubliées parce que c'est tellement évident qu'on n'y a pas pensé. Les générateurs électrochimiques, les piles et les batteries, ce sont essentiellement des sources d'électricité autonomes qui ont une disponibilité parfaite, il n'y a aucun retard à la mise en service, qui possèdent une grande souplesse d'utilisation et présentent un fonctionnement totalement silencieux. Et cela parce que ce sont des systèmes fermés, c'est-à-dire qu'on n'y injecte pas de matière, et par conséquent, il n'y a pas de nécessité d'avoir des pièces mobiles. Reprenons un peu ces aspects. L'autonomie est certainement la qualité numéro un des générateurs électrochimiques. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie électrique sans la servitude d'un double fil électrique qui est connecté au réseau. Et dans l'état actuel des choses, les applications des générateurs électrochimiques sont liées essentiellement aux besoins d'autonomie. Et cela va depuis la petite pile zingère que l'on met dans un appareil auditif, bien entendu les téléphones mobiles, mais c'est vrai aussi pour les caméscopes, c'est vrai aussi pour les véhicules électriques, c'est vrai aussi pour les batteries des satellites qui leur permettent d'avoir de l'énergie quand ils sont dans la zone d'ombre de la Terre. Deuxième aspect, qui est celui de la disponibilité. Les sources d'énergie électrochimique sont immédiatement utilisables. Il y a en permanence une tension aux bornes et par conséquent, il suffit de temps extrêmement court, quelques microsecondes, pour qu'un générateur électrochimique soit en mesure de fournir de l'énergie à un circuit. Et cela est extrêmement utile pour toutes les applications de secours et de sécurité, et en particulier dans notre monde moderne, les applications liées à l'électronique portable, la sécurité des calculateurs électroniques. C'est vrai aussi pour des plus grosses installations, pour les différentes armoires de secours, et on considère en particulier que c'est un avantage par rapport à des générateurs couplés à des moteurs diesel qui nécessairement mettent quelques secondes, voire quelques minutes à démarrer. La troisième qualité, si l'on peut dire essentielle et simple à comprendre, des générateurs électrochimiques usuels, ceux que vous utilisez tous les jours, c'est leur capacité à s'adapter à la puissance que vous leur demandez, dans la limite, bien sûr, de la puissance maximum qu'ils peuvent fournir. Ils s'adaptent immédiatement et fournissent la puissance que vous demandez. Il n'est pas prudent de leur demander la puissance maximum. D'abord, le système devient instable. Ensuite, dans ces conditions, une bonne part de l'énergie est transformée en chaleur à l'intérieur du générateur électrochimique et on risque des problèmes de surchauffe qui ne sont pas toujours nécessairement agréables. Mais dans la mesure où on utilise correctement un générateur, il présente cette particularité d'être immédiatement adaptable, c'est une très grande souplesse. Parmi les autres caractéristiques dont j'ai mentionné tout à l'heure, c'est effectivement la discrétion. Les générateurs électrochimiques ne font pas de bruit quand ils fonctionnent. Vous vous servez votre téléphone mobile et vous êtes bien content de ne pas avoir un petit moteur qui ronronne en même temps pour fabriquer de l'énergie électrique. Tout cela est lié, le fait qu'il n'y ait pas de pièces mobiles, c'est aussi une garantie contre l'usure. C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Tout ça est lié au fait qu'il s'agit de systèmes fermés. On ne rentre pas de matière à l'intérieur des générateurs électrochimiques. Mais du fait que ce sont des systèmes fermés aussi, bien entendu, leur capacité est limitée par la masse du générateur. Les capacités se mesurent généralement en watts par kilo. Le champion en capacité pour les générateurs électrochimiques, c'est la pile lithium-chlorure de thionyl avec 500 watts par kilo. Le champion des capacités pour les accumulateurs, c'est le lithium-ion, avec actuellement de l'ordre de 130-140 watts par kilo. Mais cela à comparer au plomb, 30-40 watts par kilo, mais qui reste de loin le générateur, l'accumulateur, le meilleur marché. Au niveau des puissances, le système le plus puissant est incontestablement le système argent-zinc pour les accumulateurs, lithium SO2 qui est une pile qui présente l'avantage d'être très puissant à basse température. Au point de vue peut-être de la fiabilité, il convient de mentionner le nickel hydrogène haute pression qui alimente actuellement les satellites de transmission. Également, pour en mentionner le nickel métal hydrure et le lithium carbone, pour dire qu'ils sont récents, nouveaux venus parmi les générateurs. Mais le nickel cadmium présente toujours un bon compromis à la fois en puissance, en sécurité, en domaine de fonctionnement et en commodité d'usage. Pour commencer, dire quelques mots plus spécifiquement des piles. Les piles ont la particularité d'être des systèmes électrochimiques utilisables une fois. Ce sont des systèmes jetables. Actuellement, dans ce domaine des générateurs électrochimiques, dans les masses négatives, on trouve essentiellement, la plupart du temps, deux métaux. L'un, c'est le lithium. Le lithium, parce que sa masse atomique est de 7 grammes, et donc il fournit un faraday pour 7 grammes, ce qui est remarquable. Deuxièmement, c'est le métal le plus électropositif, c'est donc l'électrode la plus négative que l'on peut concevoir. Et en outre, il a la particularité de se passiver de façon réversible à la demande dans le milieu de la pile. Et par conséquent, on a, avec le lithium, parfaitement la souplesse désirée. Les piles au lithium le lithium est coûteux, relativement difficile à préparer par électrolyse, et les piles au lithium sont coûteuses. Leur usage a d'abord été réservé aux militaires à cause des basses températures et de leur puissance, mais leur usage tend à s'étendre maintenant dans les domaines de tout le monde, notamment pour la photographie, avec le lithium MnO2 qui est un système 3 volts et le lithium sulfure de fer qui est un système 1 volt 5 et que beaucoup d'entre vous certainement utilisent. Mais la pile sans doute la plus habituelle, la plus classique, sont des piles avec des électrodes négatives à base de zinc. Le zinc est un métal abondant, courant, facile à utiliser. C'est un métal dont le potentiel normal est de moins 0,76 volts. Donc, en principe, il réduit l'eau et il n'est pas, en principe, très stable en solution aqueuse, mais lui aussi a la propriété de se passiver de façon réversible en solution aqueuse et sa réaction avec l'eau est toujours relativement lente. Ce qui fait que le zinc a donné lieu à différentes piles. Avec le bioxyde de manganèse MnO2, on trouve la pile de clencher et la pile alcaline qui sont utilisées dans notre vie de tous les jours. Avec associé à l'argent, à l'oxyde d'argent, il fournit les piles des montres qui sont des systèmes extrêmement utilisés, mais dont on n'a pas l'habitude de penser qu'il s'agit de ce type de pile. Et le zinc associé à l'air fournit des générateurs zinc-air qui vont depuis le tout petit bouton que l'on trouve dans les prothèses auditives, jusqu'aux énormes piles zinc-air de plusieurs milliers d'ampères-heure que l'on trouve pour alimenter pendant tout un été une clôture électrique dans les montagnes. Ceci vous montre un schéma d'une pile alcaline. Une pile alcaline contient une masse active positive à base de MnO2, une masse active négative à base de poudre de zinc dispersée dans un électrolyte qui est de la potasse et un séparateur qui est conducteur ionique exclusivement et qui empêche les électrons d'aller de l'un à l'autre au lieu de passer par l'extérieur. La pile zinc-air présente une particularité, c'est d'avoir une électrode à air, c'est-à-dire qu'elle va utiliser pour son fonctionnement un comburant qui est extrêmement abondant et bon marché, qui est l'air, avec un petit problème, c'est que les électrodes à air ne sont pas des électrodes de puissance, et que la puissance des électrodes des piles zinc-air est relativement limitée, alors que la puissance des piles argent-zinc est très élevée. Et c'est les piles argent-zinc, par exemple, sont utilisées dans les lanceurs Ariane pour alimenter toute l'énergie électrique des lanceurs pendant la phase de lancement, qui ne dure que quelques minutes, et par conséquent, on a affaire à des générateurs de puissance de plusieurs kilowatts par kilo qui sont utilisés en peu de temps pendant un temps relativement court. Le fait que les piles soient jetables fait malheureusement que souvent elles sont jetées. Et clairement, ce n'est pas nécessairement très bon pour l'environnement. Bon, cela étant, ni le zinc ni le dioxyde de manganèse ne sont dramatiques. N'empêche qu'il y a quelques années, il a fallu interdire l'utilisation de mercure dans les piles au zinc, mercure qui était ajouté pour retarder l'autodécharge de ces piles. On fait maintenant, au moins dans nos pays occidentaux, des piles zinc MnO2 ou zinc R sans mercure, mais de toute façon, la meilleure solution serait apportée par la collecte et le recyclage. Nous reviendrons dessus. Mais l'inconvénient des piles, c'est qu'effectivement, les matières ne servent qu'une fois, et par conséquent, si l'on veut aller dans un système un peu dans le sens de l'environnement durable, mieux vaut utiliser les matières plusieurs fois, c'est-à-dire utiliser des accumulateurs qui sont rechargeables électrochimiquement. Les batteries d'accumulateurs devant être rechargeables, on a un certain nombre limité de systèmes qui fonctionnent. En particulier, fort malheureusement, nous sommes toujours incapables de faire fonctionner dans les accumulateurs à électrode de zinc, ce qui est tout à fait dommage. Mais les accumulateurs se utilisent principalement soit le plomb, soit des masses actives positives en nickel, en oxyhydroxyde de nickel, peuvent utiliser des masses actives négatives à base de lithium ou encore d'autres systèmes. Les accumulateurs, c'est quelque chose qui est en train d'envahir notre vie de tous les jours, non seulement pour le démarrage de notre automobile, mais aussi pour notre téléphone et pour des quantités d'applications d'électronique portable. Je montre ici le nombre d'accumulateurs qui se fabriquent, d'accumulateurs portables qui se fabriquent dans le monde. Quelque chose est remarquable. on a vu depuis 10 ans l'arrivée du nickel métal hydrure, en rouge, et celle du lithium-ion, deux nouveaux systèmes électrochimiques qui n'existaient pas il y a 10 ans. Au niveau des accumulateurs, nous faisons des progrès et nous réalisons de nouvelles choses. Le nickel-cadmium, cependant, est resté stable, mais il est important de noter une progression rapide du nombre d'accumulateurs qui sont fabriqués pour le portable. C'est une progression à plus de 2 chiffres, de l'ordre de 14% en ce moment. Si l'on examine le même système, mais en valeur, d'abord, pour voir que le marché représente 5 milliards de dollars, ce qui est quelque chose de relativement important, malheureusement essentiellement dominé par les Japonais et par les Américains, et on voit la part importante que prend le lithium-ion, qui est relativement coûteux par rapport au nickel-cadmium ou au nickel-métal hydrure. Mais dans tous ces systèmes, alors bien sûr, le fait que les accumulateurs soient rechargeables leur permet de fournir un nombre de kilowattheures par kilo de matière beaucoup plus important que pour les piles, mais ce n'est malheureusement pas infini. Et par conséquent, à un moment ou à un autre, l'accumulateur est défaillant et il faut le changer, ce qui pose le problème de la collecte et du recyclage. Le recyclage des piles et des accumulateurs va devenir une obligation en 2001, et ce n'est pas quelque chose d'épouvantable, aussi bien pour les piles alcalines que pour les accumulateurs nickel-cadmium. Alors les piles alcalines sont en vert et pour les accumulateurs nickel-cadmium, c'est en jaune. Le coût du recyclage de la matière ne représente qu'une faible part du prix de vente. Cela dit, probablement, la matière que l'on récupère coûte plus cher que la matière brute. Mais le prix de vente de ces systèmes est quand même essentiellement fonction de la fabrication et de la distribution, beaucoup plus que du coût matière. Alors, en dehors des applications portables, le marché des accumulateurs représente quelque chose de l'ordre actuellement de 100 milliards de francs, dont, disons, au moins les 2/3 sont occupés par les accumulateurs au plomb. Donc, il ne faudrait pas croire que les accumulateurs au plomb sont des accumulateurs dépassés. Ce sont des systèmes qui progressent considérablement encore à l'heure actuelle et qui représentent l'essentiel du marché des accumulateurs. En particulier, les accumulateurs pour le démarrage des véhicules légers, c'est-à-dire votre voiture ou la mienne, représentent 50% du marché, et cela à un prix de 500 francs le kilowattheure stocké, qui est quelque chose de tout à fait remarquable. Cependant, pour les gros diesels ou pour l'aviation, on préfère le nickel-cadmium, plus puissant à froid et particulièrement fiable. Une autre application très importante des accumulateurs, c'est la traction. La traction, collègue M. Haut-Couturier vous invite à venir écouter ce qu'il va dire des véhicules électriques le 2 octobre prochain dans cette même salle. Néanmoins, on peut quand même dire quelques mots. Là aussi, les accumulateurs au plomb représentent une très grande part du marché de la traction, que ce soit sous forme de plomb ouvert, notamment pour les chariots, ou de plomb étanche, qui est mieux adapté aux véhicules légers. Mais actuellement, on trouve sur le marché, pour la traction, les deux couples, le plomb et le nickel-cadmium, hein, plomb acide et le nickel-cadmium, qui sont commercialement disponibles. En développement, on a le nickel-métal-hydrure et le lithium-ion qui seront probablement disponibles dans un temps relativement court. Il faut dire que la traction électrique a toujours été un moteur du progrès considérable pour le développement des générateurs électrochimiques. Même s'ils ont trouvé des applications ailleurs, les générateurs électrochimiques, au début de ce siècle, ont été développés essentiellement dans un but de traction. Et encore maintenant, le lithium-ion, le métal hydrure, le plomb font des progrès poussés par l'envie de réaliser des générateurs électrochimiques. Pourquoi ? Ça vaut la peine de s'arrêter un petit moment sur le coût du kilowattheure. Alors, d'abord, tout de suite, dire que si vous voulez des kilowattheures en utilisant des piles ordinaires, eh bien, cela coûte les yeux de la tête. Et que le kilowattheure électrochimique, dans ces conditions, n'est absolument pas rentable. Les piles ne sont intéressantes que par l'appareil qu'elles alimentent. Si on considère le pétrole brut à $30 le baril de 160 litres, 150 kilos, eh bien, donc, le pétrole brut est à moins de 1 franc le kilo pour une énergie thermique contenue de l'ordre de 10 kWh. Bon, après l'essence, vous savez, c'est de l'ordre de 10 francs le kilo pour 10 kWh, c'est-à-dire de l'ordre de 1 franc le kWh pour l'essence. Mais l'essence, utilisée dans un moteur à combustion interne, a un rendement moyen de l'ordre de 20%. Au mieux, à l'heure actuelle, les motoristes arrivent à 1 kWh pour 250 g d'essence, au mieux. Et la consommation habituelle, c'est de l'ordre de 1 kWh mécanique pour 400 g d'essence. Et disons, en prenant un rendement de 20%, cela veut dire que, en gros, le coût du kilowattheure de cette énergie, avec de l'essence, c'est 5 francs. Si on prend un accumulateur au plomb qui est vendu 1000 francs au kilowattheure stocké et qui fait 500 cycles, eh bien automatiquement, l'accumulateur au plomb coûte 2 francs par cycle, donc 2 francs par kilowattheure, auquel il faut ajouter le prix de l'électricité, prenons 50 centimes par kilowattheure, donc 2 francs 50. Pour le nickel-cadmium, qui est beaucoup plus cher à l'achat, disons 3000 francs le kilowattheure, mais qui fait 3000 cycles, eh bien on va donc trouver quelque chose de l'ordre de 1 franc par kilowattheure plus 50 centimes d'électricité. On voit donc l'intérêt que peuvent présenter les véhicules électriques au niveau de la consommation. Alors, je ne vais pas insister sur les véhicules électriques parce que mon collègue en parlera, mais je voudrais montrer simplement ici, on en reviendra là-dessus, qu'au niveau des piles à combustible, on retrouve le même intérêt et pas nécessairement les mêmes limitations. Je ne voudrais pas abandonner le chapitre des accumulateurs sans présenter quelques autres applications de ces accumulateurs, quelque chose qui est en train de se développer, le véhicule hybride, soit avec des accumulateurs au plomb, au nickel-cadmium, au nickel-métal-hydrure. Actuellement, il existe un véhicule hybride de Toyota, la Prius, qui utilise d'un nickel-métal-hydrure et le lithium-ion de puissance. Un véhicule hybride permet à un moteur thermique d'être utilisé toujours au mieux de son rendement, de l'ordre de 40%, et par conséquent, la Toyota annonce pour la Prius une consommation d'essence de 3,5 litres au 100, très nettement inférieure à ce que ferait une voiture de sa catégorie, logiquement de l'ordre de 8 litres au 100. Pour mémoire, les sous-marins qui utilisent du plomb, mais aussi développent des piles à combustible pour leur fonctionnement, le spatial avec le nickel-cadmium, le nickel hydrogène haute pression et qui est maintenant talonné par le lithium-ion, les armoires de sécurité qui utilisent beaucoup le plomb étanche et le nickel-cadmium, et puis les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ont en général des périodes de fonctionnement qui ne sont pas toujours prévisibles et il convient donc de stocker l'électricité qu'elles peuvent produire, soit dans du plomb, dans des accumulateurs au plomb, du nickel-cadmium ou toutes sortes d'autres accumulateurs. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations sur les accumulateurs, je vous donne rendez-vous au CNAM le 30 et 31 octobre à un colloque que nous organisons sur les accumulateurs électrochimiques. Mais il est temps maintenant de passer au dernier point de mon exposé, ce sont les piles à combustible. Alors, dans les piles à combustible, on modifie complètement un des aspects des générateurs électrochimiques dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, les générateurs électrochimiques sont des systèmes fermés. Là, nous allons avoir affaire à des systèmes ouverts, c'est-à-dire que nous allons avoir un système dans lequel on va injecter un combustible, un comburant, on va sortir des produits, de l'énergie électrique et de la chaleur, cette énergie électrique pouvant être utilisée soit pour la fabrication d'électricité dans un cadre de réseau et de stationnaire, soit pour faire avancer un véhicule électrique, soit pour toute autre sorte d'application. À partir du moment où on a affaire à un système ouvert, d'abord on ne peut plus parler de capacité en watt-heure par kilo, ça n'a plus de sens, puisqu'on peut injecter tout ce que l'on veut. Mais on va parler de puissance par kilo. Et à l'heure actuelle, les cœurs de pile sont des systèmes qui sont capables, disons, de fournir des puissances de l'ordre du kilowatt par kilo de cœur de pile, ce qui n'est pas si mal. Notre aspect des choses, c'est qu'à partir du moment où on fait rentrer de la matière dans un système où on sort de la matière, on a vraiment tout intérêt à ce que cette matière soit fluide. Comme pour les moteurs à combustion interne, qui utilisent l'air et donc l'oxygène de l'air comme oxydant, les piles à combustible vont avoir intérêt à utiliser l'air comme oxydant dans ces systèmes électrochimiques. Le combustible peut être plus variable, si l'on veut, mais à l'heure actuelle, le plus commode d'entre eux, c'est l'hydrogène. L'oxygène et l'hydrogène réagissent par réaction électrochimique à l'intérieur de la pile à combustible, fournissent de l'eau et de l'énergie électrique et de la chaleur. On a dans la pile une conversion de l'énergie chimique en énergie électrique. Au niveau de la masse active négative, l'hydrogène fournit des électrons. Au niveau de la masse active positive, l'oxygène les capte et donne de l'eau. La réaction globale est un hydrogène plus un demi-oxygène donne de l'eau. Pour cette réaction, elle fournit au total une quantité d'énergie de moins 286 kJ par mol qui correspond à une quantité d'électricité de Faraday que multiplie 1,5 V. Alors, si on compte en kilos d'hydrogène, c'est pas mal, parce que ça fait 40 kWh par kilo d'hydrogène. La pile, elle fournit une énergie électrique. Alors, elle fournit 2 Faraday chaque fois que l'on fait une mole d'eau. Mais pas tout, elle ne le fait pas à 1,5 V, elle le fait avec un potentiel qui, selon la puissance, est compris, disons, entre 0,7 et 1 volt. Et le reste de l'énergie est transformé en chaleur qui peut être utilisée à l'extérieur de la pile en fonction de la température auquel elle est produite. Alors, il existe toute une série de piles à combustible qui se distinguent les unes des autres principalement par la nature de l'électrolyte et de la température de fonctionnement de la pile. Donc, électrolyte alcalin, électrolyte acide, carbonate fondu, électrolyte solide céramique, électrolyte membrane conductrice protonique. Je n'aurai pas le temps ici de détailler tout cela, mais quelque chose sur lequel il est tout à fait important de noter, c'est qu'une énergie électrique fournie entre 0,7 et 1 volt représente par conséquent un rendement de l'ordre de 50 à 70%. Si l'énergie est fournie à haute température, on peut encore utiliser la chaleur dans une microturbine et à ce moment-là, la génération d'électricité passe au moins avec un rendement de 70%, 70 à 80%. C'est deux fois mieux que le meilleur moteur à explosion, ce qui signifie que le combustible est utilisé deux fois mieux et que par conséquent, on a besoin de deux fois moins de combustible pour obtenir la même énergie électrique. Bon, si la pile fonctionne à plus basse température, il est plus agréable d'utiliser la chaleur pour des chauffages, par exemple chauffage de bâtiments. L'énergie calorifique perdue en général dans les systèmes, lorsqu'ils sont bien faits, ne dépasse jamais 20%. En anglais, fuel cell signifie pile à combustible. Je voulais simplement présenter cela. Il y a actuellement dans le monde 200 piles à combustible de marque ONSI de 200 kW qui sont installées et qui fonctionnent, dont une en France, en région parisienne, à Chelles, qui est mise en œuvre conjointement par EDF et par Gaz de France et qui forme 200 kW électriques d'électricité sur le réseau et à peu près 200 kW de chaleur qui est utilisée pour le chauffage de bâtiments. Et puis, vous savez que les piles sont devenues, là aussi maintenant, un moteur du progrès du véhicule électrique et tous les constructeurs automobiles commencent à développer des piles à combustible pour les véhicules électriques, par exemple Renault, par exemple, Peugeot et Renault associés. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans ces domaines, simplement pour mentionner qu'il y a essentiellement deux technologies particulièrement prometteuses qui utilisent toutes les deux des électrolytes solides, l'une fonctionnant à relativement basse température avec des membranes polymères échangeuse de protons, l'autre fonctionnant à beaucoup plus haute température et utilisant des électrolytes solides céramiques qui sont plus intéressantes, je dirais, pour les applications stationnaires. Mais dans tous les cas, le point clé de l'utilisation des piles à combustible, c'est la production d'hydrogène. L'hydrogène peut être obtenu à partir de produits carbonés fossiles, aussi bien le méthane, le gaz naturel, l'essence, ou même le carbone transformé en méthanol. À chaque fois, automatiquement, cela signifie une part de CO2 dans l'atmosphère. Simplement, il faut se souvenir que puisque la pile à combustible peut avoir un rendement énergétique 2 fois meilleur que les systèmes thermiques, automatiquement, cela signifie que pour une même quantité d'électricité, les piles à combustible vont rejeter 2 fois moins de CO2 dans l'atmosphère. En outre, il est envisageable que les matières carbonées utilisées pour la production d'hydrogène proviennent de la biomasse, de déchets végétaux ou encore de fermentation. Mais l'hydrogène peut aussi provenir des énergies renouvelables. Alors, toutes les énergies renouvelables viennent du solaire, hein, que ce soit par la pluie et l'énergie hydraulique, que ce soit par des panneaux solaires, que ce soit par le vent et des éoliennes, toutes nos énergies renouvelables nous viennent du soleil. À chaque fois, la bonne façon de les utiliser est de transformer ces énergies en électricité. Alors, bien entendu, elles peuvent être lancées sur le réseau électrique, mais leur production se fait pas nécessairement au moment où on en a besoin, et à ce moment-là, il convient de les stocker. C'est en particulier vrai si les systèmes de production sont isolés. Et par conséquent, à ce moment-là, une solution peut être de stocker l'énergie sous forme d'électrolyse de l'eau. On fabrique de l'hydrogène par électrolyse de l'eau et on l'utilise, quand on en a besoin, dans une pile à combustible pour former de l'électricité. On va ainsi vers un domaine qui est celui d'une génération propre et durable de l'électricité à partir de systèmes renouvelables. Alors, j'ai essayé de vous montrer au cours de cet exposé comment l'homme était arrivé d'abord avec les générateurs électrochimiques ont constitué les premiers systèmes producteurs de courant électrique, qu'ils sont restés les systèmes de production d'énergie électrique autonome qui nous rendent et nous facilitent la vie, hein, aussi bien pour des applications électroniques comme le téléphone que pour notre voiture, que tout ce que l'on trouve un petit peu dans le domaine aussi du spatial avec les satellites qui possèdent tous des accumulateurs, qu'on est allé progressivement d'un système où on a des piles jetables, chercher à éviter, à obtenir une meilleure utilisation de la matière avec les accumulateurs et les problèmes de recyclage, et encore une meilleure utilisation de la matière dans le cadre des piles à combustible et allant ainsi vers un environnement durable grâce à elles. Merci de votre attention.
S'il vous plaît, excusez-moi, 4 questions. Premièrement, qu'en est-il de l'effet mémoire dans les accumulateurs cadmium-nickel ? Deuxièmement, comment est-on limité dans la décharge rapide, entre un quart d'heure et 10 minutes pour la queue cadmium-nickel ? Troisièmement, on a parlé de piles à combustible dans laquelle une ampoule permettrait de faire repartir tout de suite pour le téléphone. Est-ce de la science-fiction ? Une anticipation ou une actualité? Enfin, dernière question, que pensez-vous des systèmes actuellement vendus, j'ai essayé, ça marche un peu, qui régénèrent les piles dites non rechargeables?
Bien. Alors, la première question, je vous dirais que la bonne façon à ce moment-là, c'est de venir suivre mon cours au CNAM. Et je vous ferai un cours sur l'accumulateur nickel-cadmium où je vous exposerai tout sur l'effet mémoire. La deuxième question, c'était une affaire de puissance du nickel-cadmium. Comment se fait-il qu'il puisse être déchargé en un quart d'heure ? Donc, heureusement, c'est une des propriétés effectivement du nickel-cadmium, d'un accumulateur de puissance, donc on peut le décharger en un quart d'heure. Inversement aussi, on peut le recharger rapidement. C'est une de ses qualités. La troisième question était liée à le fait, est-ce que l'on peut imaginer des piles à combustible que l'on va recharger avec une petite cartouche de méthanol grande comme une cartouche d'encre. C'est, disons, publicitaire pour l'instant. Ce n'est pas nécessairement de la science-fiction. C'est entre la science-fiction et le développement. Et la quatrième question, j'ai oublié.
C'était au sujet des appareils qui permettent de recharger les piles voilà. En principe non rechargeables.
Là aussi, ça fait partie de mon cours pour expliquer pourquoi le zinc n'est pas bien recyclable. Et de toute façon, c'est effectivement, il n'y a pas d'interdiction au concept du zinc recyclable. Et si on essaye de le faire, on y arrive un petit peu. Mais on prend des risques. D'abord, les générateurs alcalins qui sont vendus dans le commerce sous forme de piles ne sont pas faits pour être rechargés. S'ils ne sont pas faits pour être rechargés, ça veut dire qu'au lieu de se charger, ils vont, pour une bonne part, faire de l'hydrogène à la négative, de l'oxygène à la positive, et vous prenez un risque. Vous prenez un risque, d'abord que la pression monte un peu trop à l'intérieur et que la pile s'ouvre, et que l'électrolyte s'écoule. Un autre risque, c'est que sous l'effet d'une étincelle ou d'autres choses, on ait une explosion et, disons, projection de potasse chaude dans les yeux. Donc, je ne saurais trop vous déconseiller d'essayer de recharger les piles qui ne sont pas prévues pour être rechargées.
Une question là-haut, levez-vous, monsieur.
Vous avez parlé des avantages de toutes sortes que présentent les piles accumulateurs et donc la perspective du remplacement des moteurs, du moteur à explosion par un moteur électrique. Or, ça, ce n'est pas encore fait d'une façon généralisée. Et qu'est-ce qui fait obstacle à cette généralisation du moteur électrique ? Et est-ce qu'une volonté politique pourrait changer cet état de choses ?
Bien. Alors, le premier point que j'ai essayé de montrer, c'est que le coût de fonctionnement du véhicule électrique était plus faible que le coût de fonctionnement d'un véhicule à moteur thermique. Mais dans l'état actuel des choses, le prix du véhicule électrique hors batterie est à peu près identique au coût d'un véhicule normal. Et par conséquent, il y a un investissement au niveau de la batterie qui est relativement lourd et qui fait qu'un véhicule électrique ne devient rentable pratiquement que s'il fonctionne 10 000 km par an. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, il est rentable. Alors d'un autre côté, il est propre par rapport à un véhicule thermique, ce qui est évidemment un avantage. Un autre aspect des choses, c'est qu'effectivement, le véhicule électrique est un système qui, pour l'instant, n'a pas, avec le plomb et le nickel-cadmium, une autonomie élevée. Elle est tout à fait suffisante pour un usage urbain, elle est rarement suffisante pour un usage périurbain ou pour un interville. Pour cela, il faudra la pile à combustible. Mais j'ai oublié peut-être de mentionner, le coût des piles à combustible est trop élevé à l'heure actuelle. Pour avoir vraiment une génération économique d'électricité, il faudrait encore diminuer son prix de facteur 2, 3, 5, quelque chose de cet ordre de grandeur. Actuellement, les piles à combustible deviennent rentables pour la génération d'électricité en site isolé, mais pas encore vraiment sur le réseau. Par contre, pour les véhicules, il faut encore diminuer fortement leurs coûts, parce que nous sommes habitués à avoir des véhicules relativement très bon marché. Et pour cela, cela signifie des piles à combustible à 500 francs le kilowatt, et on est encore très loin du compte. Est-ce que j'ai répondu au moins en partie à votre question ?
Une question sur le côté.
Oui, bonsoir monsieur. J'ai été très intéressé par l'utilisation des piles zinc-air et je me posais une question, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait utiliser la pile zinc-air dans l'espace, dans le vide spatial ? C'est parce que ça serait génial si on pouvait obtenir de l'énergie faisable qui pourrait apporter des accus à la pile. Et donc on pourrait utiliser la pile dans l'espace comme ça, non ?
Non. Alors, la pile zinc-air, l'air dans ce domaine est consommé. Donc on peut imaginer d'utiliser une pile zinc-air dans l'espace, mais à condition d'emmener dans l'espace le zinc et l'air. Ce n'est pas nécessairement impossible, hein, mais ça n'a vraiment d'intérêt que si on est capable de refaire du zinc et de l'air et de façon bien réversible lorsque le satellite, par exemple, est éclairé par le soleil et que l'on reforme à ce moment-là convenablement le zinc et l'air dans le générateur. Bon. Actuellement, on ne sait pas le faire. Bon. Ce qu'on sait faire, c'est les accumulateurs nickel-hydrogène haute pression qui sont capables de bien cycler, d'être fiables, de durer 15 ans hein, pour un satellite de télécommunication. Et la durée de 15 ans est absolument impérative dans ces systèmes. Mais c'est certain, si on trouvait mieux, et pour ça, on va commencer à essayer de mettre dans les satellites du lithium-ion, si on trouve mieux que le nickel-hydrogène haute pression, ça ne sera pas plus mal. En tout cas, le zinc-air, qui est peut-être tout à fait intéressant pour son énergie volumique sur Terre, à mon avis, n'est pas prêt de déboucher dans l'espace.
Monsieur à côté, oui.
Au sujet de la pile de Shell, et qui est la première de cette puissance installée en France, je crois qu'il y en a de l'ordre de 200 dans le monde, il semble que la technique est à peu près au point, avec un prix de revient quand même nettement plus élevé. Et je crois que c'est ce qu'on appelle la filière phosphore ou phosphate.
Acide phosphorique.
Au point de vue électrolyte. Oui. Voyez-vous, dans un avenir proche, des filières qui s'adapteraient bien ou à des mini-puissances ou à des plus grosses puissances ?
Alors, la filière à oxyde solide céramique est probablement très bien adaptée à des puissances plus élevées. Il y a des prototypes aussi de piles à combustible à carbonate fondu qui ont fonctionné avec des puissances de l'ordre de 2 MW, c'est-à-dire quand même tout à fait des puissances tout à fait importantes. Mais lorsque l'on cherche pour un véhicule, par exemple, une pile qui possède beaucoup plus de souplesse, eh bien, on préférera une pile à électrolyte solide polymère de type membrane conductrice protonique.
Et c'est à peu près au point, hein ?
Cela fonctionne. Le problème majeur à l'heure actuelle est de diminuer les coûts, de trouver des technologies de fabrication et des matériaux résistant à la corrosion, résistant aux conditions d'utilisation, qui soient beaucoup moins coûteux que ceux que l'on a à l'heure actuelle.
Parce que je crois qu'on a même envisagé des piles à combustible de toute petite puissance pour les téléphones portables, par exemple.
Oui.
Est-ce que c'est de la fiction d'avenir ?
C'est peut-être un peu de la fiction, mais pas complètement. Et puis, d'autre part, c'est un petit peu du rêve, en un sens que vraiment, ce n'est pas ça qui est utilisé convenablement dans une pile à combustible. Une pile à combustible, son intérêt, c'est de fournir de l'énergie électrique avec un très bon rendement. Si on fait cette opération dans un téléphone portable, à l'heure actuelle, le rendement sera absolument déplorable. Donc, on perd la qualité essentielle de la pile à combustible. Bien entendu, on peut faire une démonstration et faire rêver. Mais en pratique, il vaut beaucoup mieux utiliser les accumulateurs tels qu'ils sont dans le téléphone portable, quitte à les recharger avec une pile à combustible, pourquoi pas. Mais la pile à combustible dans le téléphone portable, à l'heure actuelle, c'est soit du rêve, soit de la publicité.
Une question là, monsieur, oui.
Oui, allez-y. Ici, au milieu, monsieur.
Levez-vous.
Oui, alors j'ai deux questions, s'il vous plaît. L'une, sur les véhicules électriques. On avait, dans le temps, il y a un certain nombre de décennies, il y avait beaucoup de voitures dans des services municipaux, par exemple, qui enlevaient les ordures et qui étaient toutes électriques. Il y avait une société qui s'appelait, je crois, Solvay ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Et seconde question, alors pourquoi est-ce qu'on les a supprimées ? Seconde question, on trouve dans le commerce actuellement, pour les piles rechargeables, des appareils qui vous disent il faut d'abord les décharger complètement, parce qu'il reste toujours un petit reliquat, et si on ne supprime pas ça, elles ne se rechargeraient pas complètement. Voilà.
Bon, la première question est tout à fait intéressante, car elle est liée au fait que les bennes à ordures, dans l'état actuel des choses, ont un chemin beaucoup plus long à parcourir depuis l'endroit où elles collectent les ordures jusqu'à l'endroit où elles vont les déverser. Et donc, il y a 30 ans ou 40 ans, les bennes à ordures ramassaient les ordures dans Paris et allaient les porter juste à la périphérie de Paris. Et puis les usines de traitement d'ordures se sont fortement éloignées, et nous en sommes très contents, mais aussi cela a empêché les bennes à ordures électriques de continuer à fonctionner avec les accumulateurs qu'ils avaient. Et donc, ils ont été rangés et on a utilisé des bennes à ordures à essence. On a une certaine tendance à essayer de recommencer l'expérience avec des accumulateurs plus capacitifs. L'autre question ressort de la première question à laquelle je n'ai pas répondu, à savoir l'effet mémoire. L'effet mémoire peut être gênant dans certains accumulateurs alcalins, plus ou moins gênant selon la qualité de l'accumulateur auquel on a affaire. Il ne faut pas non plus en exagérer l'importance.
Une dernière question, monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous n'avez pas du tout mentionné dans votre exposé de batterie mécanique, et je citerai la batterie qu'on appelle flywheel, c'est-à-dire la roue inertielle. Qu'en pensez-vous, monsieur ?
Bien. Alors, d'abord, effectivement, on peut imaginer de stocker l'énergie autrement que par des moyens électrochimiques. Une des possibilités, c'est de la stocker sous forme d'énergie mécanique, donc avec des disques tournants qui stockent de l'énergie mécanique et peuvent la restituer. Ces systèmes sont expérimentaux encore à l'heure actuelle, ils existent, ils sont expérimentaux. Ils sont considérés avec une certaine méfiance, car en cas de rupture mécanique, on a des problèmes. Cela étant, ces systèmes sont, même s'ils sont expérimentaux, ils existent. Néanmoins, leur capacité de stockage est relativement limitée. Là où ils ont un intérêt réel, c'est dans le fait que, à se coupler donc à un moteur électrique, ils peuvent rendre l'énergie stockée avec une très grande rapidité, c'est-à-dire fournir une grande puissance, et une puissance plutôt plus élevée que celle des accumulateurs. Mais honnêtement, que ce soit pour le rendement, la commodité, l'énergie volumique, l'énergie massique, les accumulateurs sont plutôt nettement meilleurs et aussi en sécurité. Par contre, c'est vrai, en puissance, ce sont des systèmes très, très bons et qui pourraient trouver des applications dans un certain nombre de niches où on a besoin de puissance importante.
Jean-François Fauvargue, je vous remercie.